Vous écoutez On lit pour vous.
Des mines controversées pour un virage vert. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. La transition énergétique va faire bondir la consommation de certains métaux, notamment pour construire les batteries des voitures électriques. De nouvelles mines sont prévues dans des régions peu habituées à cette industrie. Comment arbitrer le débat? On a rencontré beaucoup de gens opposés à ces mines de la transition énergétique, explique Axelle Ferrand, chercheuse en responsabilité sociale à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui présentait ses travaux au congrès de l'ACFAS à la mi-mai à Ottawa. Davantage que de gens favorables. La question fondamentale que posaient ses opposants, selon Mme Ferrand, ces nouvelles mines sont-elles la seule solution pour la transition énergétique? Personne ne remet en cause la nécessité de la transition énergétique, mais beaucoup se demandent si une transition basée sur le maintien de notre mode de vie avec des voitures électriques qui remplacent les voitures à essence est la seule voie possible. Certains se demandent aussi si, en changeant notre mode de vie, les mines ne sont peut-être plus nécessaires. La chercheuse montréalaise a fait ses entretiens dans le cadre d'un large projet sur l'acceptabilité sociale des projets miniers de la transition énergétique. La question que nous posons est la suivante. L'utilité sociale d'un minerai vient-elle influencer l'acceptabilité sociale des projets miniers? Peut-être que si l'on démontre que la voiture électrique est la solution, peut-être que les citoyens vont être plus favorables à ces projets miniers. Opposition plus forte en zone récréo-touristique. Mme Ferrand a publié l'an dernier, dans la revue Vertigo de sciences de l'environnement de l'UQAM, un premier volet de ses recherches. Il s'agit d'une analyse de 300 articles de presse sur le projet de mine de lithium Authier, près de Val-d'Or. Après avoir été conçu pour échapper à une évaluation du BAP en restant sous une production de 2000 tonnes par an, il a fait face à une mobilisation citoyenne à cause de sa proximité avec une source d'eau. L'an dernier, l'entreprise Sayona a décidé de le soumettre volontairement au BAP. La proposition de Mme Ferrand? Faire de ces projets miniers une arène pour débattre démocratiquement des trajectoires de la transition. On voit une différence dans l'acceptabilité sociale des projets miniers de la transition énergétique, selon qu'ils sont situés dans une région minière ou une région plus récréo-touristique. L'opposition est plus forte dans les régions récréo-touristiques. Cela dit, le projet Authier est situé dans une région minière. Les transports collectifs sont plus difficiles à mettre en place dans les régions récréo-touristiques, par exemple les Laurentides, à cause de la plus faible densité de population. Les opposants au projet minier se rendent-ils compte qu'en refusant que la transition énergétique se fasse en remplaçant les voitures à essence par des voitures électriques, ils compromettent potentiellement leur mode de vie basé sur la voiture? Ce n'est pas abordé par les opposants, répond Mme Ferrand. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le débat de société sur les trajectoires de la transition énergétique. Produire dans des pays pauvres. Refuser que les nouvelles mines de la transition énergétique s'installent chez nous n'équivaut-il pas à profiter des normes environnementales moins exigeantes d'autres pays? À l'hiver 2023, la sixième session de l'Assemblée sur l'environnement de l'ONU faisait état des risques et des promesses que les minerais nécessaires à la transition énergétique peuvent avoir sur les pays pauvres. La République démocratique du Congo, par exemple, produit près des trois quarts du cobalt du monde et les Philippines et l'Indonésie la moitié du nickel. Le lithium, qui complète le triumvirat minier de la transition énergétique, est le seul qui soit produit en majorité dans un pays riche, l'Australie. C'est une question qui ne ressort pas du tout quand on parle à la population, dit Madame Ferrand. On entend, par contre, plusieurs responsables politiques dire que c'est mieux de faire ces mines chez nous plutôt qu'en Chine ou dans des pays pauvres dans des conditions déplorables. Madame Ferrand estime que cet argument est fallacieux pour quatre raisons. Poser la question dans ce sens-là empêche de repenser notre système, nous impose une trajectoire extractiviste pour la transition énergétique. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que, majoritairement, ce sont les mêmes entreprises minières au nord et au sud. Normalement, elles doivent avoir les mêmes normes, même s'il y a moins de législation environnementale au sud. Et plusieurs études montrent que la relance minière en Europe et en Amérique du Nord ne se traduit pas par une diminution du nombre de projets extractifs dans le sud, parce que la demande augmente fortement mondialement. L'argument selon lequel il vaut mieux produire au Canada sous un régime environnemental rigoureux que dans des pays pauvres cache finalement un autre débat sur la nature de l'économie souhaitée pour une région ou pour un pays. Même si on choisit la trajectoire de transition énergétique qui ne change pas notre mode de vie, on peut choisir une économie basée sur le récréotourisme plutôt que sur l'activité minière. C'est un choix de développement industriel. Si des régions ou des pays veulent ancrer leur développement économique dans l'extraction, c'est leur choix. En savoir plus. Source, Agence internationale de l'énergie. 70% augmentation de la demande mondiale de cobalt entre 2017 et 2022. 40% augmentation de la demande mondiale de nickel entre 2017 et 2022. 43 fois augmentation de la demande mondiale de lithium prévue en 2040 par rapport à 2020. C'était « Des mines controversées pour un virage vert », un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 mai 2024 dans La Presse.
Intelligence artificielle et compétences humaines. Un texte de France Dufresne, paru le 2 avril 2024 dans La Presse. Question d'un lecteur, Mathieu. J'ai 35 ans et je travaille en comptabilité depuis la fin de mes études universitaires. Ce que je lis sur l'intelligence artificielle et les emplois qui sont appelés à disparaître m'inquiète. On dit que plusieurs de mes tâches pourront être effectuées par des algorithmes. Je me demande donc si, dans 10 ans, j'aurai encore un travail. Comment puis-je m'assurer que ma formation et mon expérience demeurent pertinentes? Réponse de France Dufresne. Mathieu, sachez que vous n'êtes pas seul. J'entends des préoccupations similaires provenant de travailleurs de toutes les professions. La place de l'intelligence artificielle, IA, se fait de plus en plus sentir dans les milieux de travail et suscite des inquiétudes quant à la pérennité de nombreux emplois. Dans ce contexte, j'aimerais offrir ici quelques réflexions pour comprendre comment demeurer pertinent dans son organisation et sur le marché du travail. En tant qu'employeur, je crois qu'il est également judicieux d'offrir les occasions de requalification nécessaires pour conserver la valeur de son capital humain. L'humain possède des qualités uniques. Les récentes recherches sur l'impact de l'IA sur les emplois ne prédisent pas nécessairement l'abolition complète de postes, mais plutôt une transformation des tâches effectuées par les travailleurs. Même si certaines tâches répétitives ou routinières peuvent être automatisées, les compétences humaines sont loin d'être obsolètes. Au contraire, il existe plusieurs qualités humaines que l'IA ne peut imiter ou qu'elle peut difficilement recréer, comme la créativité, le jugement, le leadership, l'empathie et l'éthique, pour ne nommer que celles-ci. Le World Economic Forum a récemment publié une étude faisant état des compétences et des aptitudes qui seront les plus recherchées par les organisations d'ici 2027. Pour vous assurer que votre formation et votre expérience demeurent pertinentes, vous devez acquérir de nouvelles compétences. De plus en plus d'organisations valorisent l'approche en T en matière de développement professionnel. La ligne verticale du T représente l'expertise technique dans une discipline précise, comptabilité par exemple, et la ligne horizontale du T représente l'étendue des connaissances dans différentes disciplines, approvisionnement, vente, service à la clientèle, par exemple. Des connaissances transversales combinées à la résilience et à l'adaptabilité sont toutes des qualités qui vous assurent de demeurer pertinent dans un monde où l'IA sera de plus en plus présente. Il existe plusieurs moyens d'acquérir ces compétences. Vous pouvez envisager un cheminement de carrière latéral, participer à des projets à l'extérieur de votre organisation, regroupement dans votre industrie, association professionnelle, etc., suivre des formations et vous tenir informé sur les avancées et les tendances dans votre secteur. Pour d'autres conseils sur le cheminement de carrière, je vous invite à consulter mon article sur le développement des compétences vers un poste de direction. Et n'hésitez pas à vous montrer curieux et engagé envers l'arrivée de nouvelles technologies au travail. Votre attitude positive contribuera à vous positionner comme un allié du changement et pourrait vous valoir un rôle accru dans les plans de votre organisation. Vous êtes l'employeur de Mathieu? La question de Mathieu soulève également des enjeux d'un point de vue organisationnel. Si vos employés s'interrogent sur leur pertinence, il convient sûrement de réfléchir à la façon dont votre organisation évoluera pour s'adapter à ce nouveau contexte. L'IA permet bien entendu d'optimiser les processus, de réduire les erreurs et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais elle perturbe d'autant les façons de faire. En premier lieu, interrogez-vous sur l'évolution des conditions de marché, sur vos stratégies d'affaires, sur vos objectifs d'affaires et, conséquemment, sur vos besoins en talent pour atteindre ces objectifs. En établissant les capacités organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise dans ce nouveau contexte, vous pourrez mieux déterminer les compétences et les expertises qui seront requises. Évaluez vos talents actuels. Faites un état des lieux des compétences, des aptitudes, du potentiel et des ambitions des employés. Déterminez les zones de compétences où des améliorations sont nécessaires pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise. Cette évaluation vous permettra de mettre en place une stratégie de gestion des talents, par exemple le fameux modèle « développer, embaucher, sous-traiter, automatiser » de l'anglais « build, buy, borrow, boat » pourra vous être utile pour combler vos besoins à court et à long terme. Développer à l'interne. Ciblez les employés ayant un potentiel de croissance et investissez dans leur développement professionnel. Offrez des formations, des programmes de mentorat et des occasions de progression de carrière pour nourrir les aspirations de vos gens. Cette stratégie est souvent mise de l'avant pour des rôles très spécifiques à l'organisation ou particulièrement essentiels à son succès. Embaucher à l'externe. Faites l'inventaire des compétences et des expertises manquantes au sein de votre organisation et recrutez des talents externes pour combler ces lacunes. Recherchez des candidats ayant des compétences spécialisées et une expérience pertinente pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Cette stratégie est souvent mise de l'avant pour des rôles dont l'expertise est facilement transférable d'une organisation à l'autre ou pour des besoins urgents. Sous-traiter. Faire appel à des contractuels ou des consultants. Explorer des options telles que l'externalisation de certaines tâches ou l'utilisation de consultants pour des projets spécifiques. Cette approche flexible vous permet de répondre à des besoins temporaires ou spécialisés sans mobiliser des ressources à long terme. Automatiser. Déterminer les tâches répétitives et isolées qui pourraient être automatisées grâce à la technologie. Libérer du temps pour les employés afin de leur permettre de se concentrer sur du travail à valeur ajoutée. De mon point de vue, l'IA est un outil puissant qui complète les compétences humaines plutôt que de les remplacer. Penser que la technologie va accomplir l'ensemble du travail dans une organisation ou un département, c'est faire fausse route. Les organisations qui seront mariées technologie de pointe et compétences humaines se démarqueront de leurs compétitrices en plus de donner naissance à des environnements de travail dynamiques où des gens comme Mathieu pourront exploiter leur créativité, leur esprit critique et leur jugement pour relever les défis de demain. C'était « Intelligence artificielle et compétences humaines », un texte de France Dufresne paru le 2 avril 2024 dans la presse.
Grands-parents confidents, pour le meilleur et pour le pire. Un texte de Marie-Josée Roy, paru dans Bel Âge. Recevoir les confidences de ses petits-enfants fait partie des privilèges qui viennent avec le rôle de grands-parents. Mais encore faut-il trouver le juste équilibre. Voici quelques pistes de réflexion pour bâtir une relation enrichissante. Qui ne s'est pas un jour tourné vers un grand-parent pour trouver une oreille attentive? Si les enfants ont parfois tendance à garder leurs secrets à l'abri de leurs parents, certains d'entre eux n'hésitent pas à se confier à grand-papa ou à grand-maman. Contrairement aux parents, les grands-parents ne représentent pas une figure d'autorité. Ils sont plutôt une figure stable et rassurante, explique Sébastien Grenier, psychologue clinicien, chercheur et professeur agrégé au département de psychologie de l'Université de Montréal. Ne craignant pas une éventuelle punition de leurs grands-parents, les jeunes se confient à eux plus facilement. Un rôle privilégié. Délestés des responsabilités inhérentes au rôle de parents, les grands-parents peuvent miser sur une relation complice avec leurs petits-enfants et obtenir du temps de qualité en leur compagnie. Les jeunes, pour leur part, ont souvent l'impression qu'ils seront moins jugés et mieux écoutés par leurs aïeuls que par leurs parents. On sait que les grands-parents sont souvent une source d'affection, d'attention, de sécurité et d'amour. Les enfants seront mieux armés dans la vie en sachant qu'ils peuvent compter sur un grand-père ou une grand-mère, mentionne la psychologue Mélanie Villandré, fondatrice de la clinique de Fil en famille dans le quartier Rosemont à Montréal. Il y a aussi toute la transmission de l'histoire familiale, des traditions, de la culture, des recettes, par exemple. Ce lien intergénérationnel est très intéressant. Jeunes de cœur. La création d'un lien privilégié entre papy, mamie et les petits a des effets bénéfiques sur le plan psychologique. Ça permet une meilleure gestion du stress et ça peut contribuer à réduire l'anxiété et même les symptômes dépressifs. Je ne dis pas que c'est un traitement contre la dépression, mais ça peut remonter le moral de quelqu'un qui se sent déprimé, affirme Sébastien Grenier. De plus, côtoyer les jeunes générations est un moyen en or de rester connecté à un monde qui tourne à vitesse grand V. Les aînés ne nient pas qu'ils sont en train de vieillir, mais de côtoyer leurs petits-enfants leur permet d'être jeunes de cœur. Il faut dire que les propos des petits et des ados ont parfois de quoi les surprendre. Le choc des générations. L'enfance et l'adolescence sont des périodes propres au questionnement et à l'exploration, D'où les confidences parfois déconcertantes des principaux intéressés. Les grands-parents peuvent se sentir inconfortables, surtout s'il y a des différences dans la discipline, la culture, la religion ou l'éducation, précise Mélanie Villandré. Comment doit-on réagir si les propos de notre petit enfant nous déstabilisent ou qu'ils vont à l'encontre de nos valeurs? Le premier conseil que je donne, c'est d'écouter sans intervenir, mentionne Sébastien Grenier. Essayez de se mettre dans les souliers de son petit enfant et ne pas minimiser ce qu'il vit. Celui-ci ne voit peut-être pas la vie de la même façon que son grand-parent. Ce sont deux réalités différentes, et ce qui peut sembler anodin aux yeux de papy ou de mamie peut être jugé très sérieux par le jeune, comme une peine d'amour, par exemple. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont des alliés de taille quand on est confronté au choc des générations, comme le précise Mélanie Villandré. Il faut être capable de dire « Même si je ne comprends pas, je t'aime et ça ne doit pas être facile. » L'important est de valider leur expérience et leurs émotions, tout en mettant une limite à ce qu'on peut garder comme secret. Motus et bouche cousue? Les confidences des petits-enfants peuvent se transformer en fardeau si on a l'impression que leur santé ou leur sécurité est menacée, d'où l'importance de savoir où tracer la ligne. C'est vraiment l'intérêt des jeunes qui prime, rappelle Mélanie Villandré. C'est correct de dire à son petit enfant que même si on désire préserver ses secrets, on devra en parler à quelqu'un parce qu'on est inquiet pour lui. On peut en parler aux parents de l'enfant si c'est sécuritaire, à un intervenant ou à un employé de son école, par exemple. Si la situation le permet, le grand-parent peut aussi jouer les médiateurs entre le petit enfant et ses parents, mentionne Sébastien Grenier. Parfois, les jeunes ne savent pas comment le dire à leurs parents. Alors le grand-parent peut servir de pont entre les deux parties. L'idée, c'est de trouver un terrain d'entente avec son petit enfant. En misant sur la bienveillance, l'ouverture et l'honnêteté, papy ou mamie s'assure de préserver le lien unique qu'il entretient avec son petit enfant, mais aussi de veiller à son bien-être. N'est-ce pas là le plus important? C'était Grands-parents confidents pour le meilleur et pour le pire. Un texte de Marie-Josée Roy, paru dans Bel Âge.
Quand un ange entre dans nos vies, un texte de Caroline Kelly, paru le 25 avril 2024, dans la presse. Je souhaitais prendre un temps, dans cette vie un peu folle, pour remercier le passage d'un ange dans la vie de notre fille. Je la nommerai, bien entendu, mais je ne nommerai pas l'école, car je crains les demandes qui se multiplieraient pour avoir recours à ses services. Je vous raconte. Désespérée par la difficile transition d'une école anglophone à une école francophone, nous en étions, ma fille et moi, à baisser les bras devant l'abysse que représentait ce « rattrapage en français », une expression bien en vogue en 2024. Remplie de bienveillance, et en dernier recours, la direction de l'école me proposa les services d'une dame. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il s'agissait d'un ange. Pleine d'espoir et au bord des larmes, car le destin pédagogique de ma fille était lié à la réponse de cette dame, je composai le numéro de téléphone. Cette conversation allait sceller le sort d'une formidable aventure. Anna entrait dans la vie de notre petite fille. Anna, dont je ne donne que le prénom pour préserver son intimité, n'est pas une dame comme les autres. C'est un personnage comme dans les grands romans. Sous son aile, ma fille a pu apprendre la langue en multipliant les heures avec une pédagogue, certes, mais surtout avec une amie. Malgré quelques générations d'écart, il y a entre ces deux femmes une complicité qui rendrait quiconque jaloux. Pendant la pandémie, j'écoutais discrètement des bribes de leurs conversations à travers la porte fermée et j'entendais l'accent délicat de cette dame polonaise qui marquait ses phrases d'expression pour tenir en haleine n'importe quel adolescent blasé. Soir après soir, été après été, année après année, Anna donnait son précieux temps pour que ma fille puisse réussir en français. Je dois dire que chaque semaine, j'étais sidérée de constater à quel point elle parvenait à inculquer des notions en ne perdant jamais l'attention et l'intérêt de sa petite protégée. Nous arrivons bientôt à la fin du secondaire. Le chemin parcouru est impressionnant. Je ne sais pas comment nous aurions pu y arriver sans Anna. Sa douceur, sa rigueur, sa manière unique de maintenir attentive une jeune fille souvent épuisée après une difficile journée d'école, c'est un cadeau précieux. Au-delà de cette relation tutrice-élève, il y a surtout une amitié profonde qui s'est installée, je le sais. Ma fille estime Anna et démontre un profond respect pour elle. Ensemble, elles ont pleuré, traversé des moments difficiles, une pandémie, des rires, la transformation d'une jeune fille en jeune femme et beaucoup de choses qui n'existent qu'entre elles. Anna, vous êtes un membre de la famille depuis que vous avez fait le choix de prendre notre fille sous votre aile. À tout jamais, nous serons d'une infinie reconnaissance. Pour ses apprentissages forgés dans les dernières années, mais surtout pour cette expérience humaine qui a une valeur inestimable. Vous méritez ce témoignage pour avoir changé une vie à votre manière. Je souhaite à tous les élèves de développer une telle complicité sur le chemin de leur éducation, en espérant qu'un ange passe sur leur chemin. C'était « Quand un ange entre dans nos vies », un texte de Caroline Kelly, paru le 25 avril 2024 dans la presse.